Voici maintenant un extrait du chapitre sur l'ordinateur intitulé « Dialoguer avec une machine ou avec des inconnus, mais se couper des siens ». Marc passe ses soirées devant son ordinateur après les journées de travail. Il y passe aussi ses week-ends. Il a consacré 3 ans à concevoir un logiciel. Maintenant, il veut l'améliorer. Sa femme, il ne la touche plus. Ses enfants, il ne les éduque plus. Il ne leur parle même presque plus. Pour qui veut fuir le domicile conjugal, tout en faisant semblant d'y rester, il n'est pas de meilleur alibi qu'un ordinateur. Combien de femmes maudissent secrètement le jour où leur conjoint a installé à demeure cette maîtresse exigeante? Bien sûr, tout s'est passé en douceur, progressivement, insidieusement. Mais les heures passées devant l'écran ont inexorablement augmenté, au point que de nombreuses femmes ont aujourd'hui le sentiment qu'elles-mêmes et leurs enfants comptent moins que cette machine, voire n'existent plus. Cette distension des liens constitue un risque réel et non négligeable après l'introduction d'un ordinateur à la maison. Le psychiatre Marc Valeur, chef de service à l'hôpital Marmottan à Paris, reçoit des internautes atteints de cyberdépendance, une nouvelle forme d'addiction qui englobe diverses formes de dépendance à l'outil informatique et à l'Internet. Participation à des groupes de discussion, chat, discussion écrite en temps réel, et forums, thématiques, auxquels chacun ajoute sa contribution, infolisme, quête effrénée des informations, et plus récemment, addiction à des jeux d'action en réseau. Leurs adeptes deviennent des héros dans un autre monde où rien n'est jamais irréversible, dépendant de l'illusion du pouvoir, dépendant de sensations fortes et du désir d'évasion. La victime de cette addiction peut mourir, tuer, aimer, être à la tête de dizaines, voire de centaines de personnes. La réalité, en comparaison, lui paraît ennuyeuse, moins passionnante que le monde du jeu. Introduire un ordinateur chez soi, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. Bien sûr, tous les internautes ne tombent pas dans le panneau. Marc Valeur signale cependant d'emblée que l'idée d'une cyberaddiction est née de la provocation du docteur Ivan Goldberg, qui voulait démontrer que l'addiction était un concept flou et artificiel que l'on pouvait appliquer à n'importe quoi. Il construisit donc par dérision une grille d'addiction à Internet. Mais son canular a trop bien marché et nombre d'internautes se sont reconnus dans sa cyberdépendance. Cela s'est produit en 1995 et depuis lors, le nombre de cyberdépendants a plus probablement augmenté que diminué. Qui lancera une étude ou un sondage pour évaluer leur nombre? Vous avez un risque de développer cette addiction si vous trouvez difficile de ne pas être connecté pendant quelques jours, si vous avez essayé sans succès d'écourter votre usage de l'Internet, si vous déviez de vos champs d'action et de satisfaction à cause de l'Internet, si le rendement de votre travail ou vos relations personnelles souffre du temps que vous passez sur l'Internet, si votre entourage se plaint du temps que vous passez sur Internet. Aucun des cyberdépendants ne le serait devenu sans la présence d'un ordinateur à domicile. Car une utilisation de l'informatique encadrée par des horaires de bureau ne se prête pas à des usages récréatifs et ludiques prolongés. Sans compter les ordinateurs portables professionnels qui peuvent également être utilisés à domicile, le nombre de foyers équipés de micro-ordinateurs est passé de 15 à 45% entre 1996 et 2004. Dans les foyers où le chef de famille a entre 40 et 49 ans, un âge où l'on est susceptible d'avoir des enfants chez soi, le pourcentage est passé de 25 à 65%. Et dans les familles de 4 et de 5 personnes, il a grimpé respectivement de 28 à 73% et de 30 à 76%. Source INSEE. Ce sont donc les foyers avec enfants qui sont les plus équipés. L'habitude d'allumer un ordinateur chez soi crée une source supplémentaire de pollution électromagnétique pour tous les occupants du logement et pour les voisins pendant la soirée, voire pendant une partie de la nuit. Elle s'ajoute généralement à celle de la télévision, regardée concomitamment par d'autres membres de la famille. Comme les écrans cathodiques de télévision, les écrans cathodiques d'ordinateur émettent sur plusieurs mètres alentour, y compris et principalement derrière et sur les côtés, les mêmes fréquences extrêmement basses. de 50 Hz et 15 625 Hz, ou de 100 Hz et 31 250 Hz, plus d'autres autour de 100 à 200 kHz, 100 000 à 200 000 Hz. L'écran n'est pas le seul en cause. Même éteint, les haut-parleurs amplifiés émettent en permanence, comme les radios réveil, dès lors qu'ils sont branchés. L'unité centrale, elle aussi, rayonne, en plus du 50 Hz, des champs électromagnétiques dans les bandes des radiofréquences et des micro-ondes, de 20 MHz à 45 MHz, et aussi autour de 150, de 400 MHz, de 700 MHz, de 1000 MHz et de 3 GHz. Il y en a pour tous les goûts. Les fréquences émises par les microprocesseurs varient d'un modèle à l'autre. Plus le modèle est récent et puissant, plus ses fréquences sont élevées. Pour éviter les fuites vers l'extérieur, des solutions sont mises en place au niveau de la conception du produit. Quantifier les émissions de champs électromagnétiques et identifier leur trajectoire, raccorder le radiateur à la masse, ajouter des joints et des filtres, blinder le microprocesseur. Il est évident que les produits à bas prix ont fait l'économie de recherche en la matière. Ils présentent donc le risque d'émettre plus que d'autres. Quant aux effets sur la santé, ils sont susceptibles de varier en fonction des fréquences et des puissances. Le professeur Roger Santini mentionne une étude publiée en 1992 indiquant une augmentation significative des avortements spontanés chez des femmes travaillant sur écran de visualisation plus de 20 heures par semaine. Champ magnétique émis supérieur à 9 mégas. La référence est un livre du professeur Roger Santini, Notre santé face aux champs électriques et magnétiques. Les nouveaux ordinateurs émettent des fréquences différentes, à des niveaux de champs différents, qui devraient faire l'objet de nouvelles études. Ce n'est malheureusement pas le cas. Nul ne sait encore s'ils sont moins ou plus nocifs que les anciens modèles et quelles perturbations biologiques ils induisent. Bien que je sois opposée aux expérimentations animales, je me demande quelle équipe du CNRS ou de l'INSERM, ou d'étudiants en biologie, pourrait concevoir un protocole d'étude consistant à placer des couples de souris à côté d'ordinateurs, directement au domicile d'une vingtaine d'accros. La même nourriture serait fournie et tous les participants recevraient les mêmes consignes de soins des animaux, placés dans des cages identiques à égale distance des ordinateurs. Les chercheurs viendraient ensuite régulièrement ausculter les animaux et leur porter. Une telle expérimentation présenterait deux avantages par rapport à une expérimentation menée en laboratoire. D'une part, être identique à la situation réelle des utilisateurs, toujours exposés à des sources non pas uniques mais multiples, dont les effets se combinent. Ces conclusions auraient donc un réel intérêt pratique pour eux. D'autre part, ne nécessiter que peu de moyens, ordinateurs et locaux étant fournis par les participants, seul l'achat des cages, des souris, de leur nourriture et des instruments de mesure des champs électromagnétiques resterait à la charge de l'équipe de recherche. Le palmarès nominatif des ordinateurs auprès desquels les animaux dépériraient le plus rapidement susciterait-il autant d'intérêt que les bancs d'essais régulièrement publiés par les magazines spécialisés ? Pour connaître les effets biologiques de votre ordinateur sur les mammifères, vous pouvez le faire vous-même. Placez à proximité, dans une cage, un couple de souris qui sera exposé en même temps que vous. Leur taux de reproduction et leur longévité seront des indicateurs plus pertinents pour vous que toutes les études publiées dans les revues scientifiques. Encore pardon pour les animaux et ceux qui s'insurgent à raison contre leur exploitation à des fins scientifiques, mais ce sacrifice serait peut-être la seule façon de dissuader certains de passer de nombreuses heures devant leur écran, car les pauvres souris placées dans ces conditions ne résistent pas longtemps. Saviez-vous que tous les appareils électriques à processeur émettent également de la chaleur ? La température d'un microprocesseur varie de 58 à 85 degrés Celsius. C'est la raison pour laquelle ils sont nécessairement munis de systèmes de refroidissement, radiateurs et ventilateurs si bruyants sur certains modèles, exactement comme les moteurs de voiture. Ils réchauffent donc l'air alentour. Bien que cette donnée n'ait jamais été prise en compte par les climatologues, on peut se demander dans quelle mesure les 822 millions d'ordinateurs en fonctionnement sur la planète ne seraient pas, avec les gaz à effet de serre, l'un des facteurs résultant de l'activité humaine qui contribue au réchauffement climatique. L'hiver, on peut profiter de la chaleur des ordinateurs pour diminuer le chauffage. Mais qu'en est-il pendant l'été? Nous verrons plus loin que cette chaleur peut avoir un autre effet, immédiat celui-là, sur l'utilisateur lui-même. Chez nous, ça va, on a acheté un écran plat, objecte Paul, qui se croit protégé. S'il avait effectué des mesures, il serait sans doute moins rassuré. Les écrans plats d'ordinateur émettent aussi des champs magnétiques qui varient selon les technologies, LCD, TFT, plasma, et un jour peut-être OEL, DUP, phényléne, vinylène. On ne sait rien de leurs effets biologiques qui n'ont jamais fait l'objet de publications scientifiques. À quels critères se fier pour choisir un écran plat à bas prix en supermarché? Comme bon nombre d'accros à domicile, Marc, utilisateur invétéré devenu mari et père absent, travaille également sur ordinateur pendant la journée. Son exposition cumulée dépasse les 12 heures par jour, soit plus de 3000 heures par an. Est-ce bien raisonnable? Même si on le payait, il refuserait de s'exposer aussi longtemps au soleil. Marc vient tout juste de dépasser la quarantaine. Il ne fume pas, ne boit que lorsque l'occasion se présente. Pour l'instant, son seul problème de santé est un psoriasis au coude. Une maladie de peau chronique caractérisée par des taches rouges recouvertes de squames abondantes, blanchâtres, sèches et friables. Est-ce à force de les poser sur un bureau dans lequel se propagent des champs électromagnétiques pour pianoter sur son clavier d'ordinateur? Mais cette dépendance affecte profondément sa vie familiale et il est malheureusement peu probable que Marc vienne seul à bout de son addiction, car cela en est une, aussi difficile à surmonter que le tabagisme, l'alcoolisme ou les toxicomanies, même si la plupart des victimes n'en sont pas encore conscientes. L'addiction, quelle qu'elle soit, est un problème grave, difficile à résoudre. Cette maladie, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, cause tôt ou tard de grandes souffrances à celui ou celle qui en est atteint et à son entourage. La cyberdépendance frappe autant les femmes que les hommes. Elle ne peut être guérie que si le ou la malade accepte de se soigner. Je souhaite de tout cœur que la lecture de ce livre aide les personnes concernées à prendre la décision de le faire. Avertis de ce risque, ceux qui ne sont pas encore directement touchés pourront aisément mettre en place l'action préventive simple qui y est proposée. Et si vous voulez la connaître, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous procurer et lire La Fée Électricité. Merci pour votre attention.